Il est 9h10 à Port-au-Prince et Washington. Moins de liberté au nom de la sécurité. L'état d'urgence est décrété dans certaines zones d'Haïti pour lutter contre les gangs. À l'intransigeance de Donald Trump, Joe Biden a promis de l'humanité en matière d'immigration. Le président américain, aujourd'hui débordé à sa frontière sud, on ouvre le dossier avec notre invité du jour. Et puis dans une quinzaine de minutes, le journal de l'Outre-mer, c'est avec vous. Tessa Groman, on sera en Guyane avec une vidéo d'enfant qui entonne des chants nazis.
Oui, vidéo mise en scène et filmée par un légionnaire néo-nazi. Elle fait réagir un député guyanais qui réclame des sanctions fortes à la ministre des Armées.
À tout à l'heure, Tessa, et bienvenue à tous.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
C'était il y a une semaine, tout juste, l'opération policière de Village de Dieu dans la capitale haïtienne, opération anti-gang qui s'est soldée, on le sait, par la mort d'au moins 4 policiers et la perte de matériel resté aux mains des malfrats. Les autorités n'ont encore fourni aucun détail. Mais le président Moïse vient donc de décréter l'état d'urgence dans certaines zones contrôlées par les gangs. Amélie Baron, le gouvernement assure que cette nouvelle restriction des libertés est nécessaire pour combattre la criminalité organisée.
4 zones de non-droit en Haïti sont directement ciblées par l'arrêté qui annonce l'état d'urgence, mais le secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus, confirme que la mesure s'appliquera là où la police en aura besoin.
On ne pense pas que ça va être l'ensemble du territoire, mais ça peut arriver que 2 ou 3 bandits essaient de contrôler une portion du territoire. Quelqu'un doit sur le territoire, il y a un problème où des groupes armés essaient de défier la police, et bien ce sera déclaré automatiquement zone rouge, et à ce moment-là, les mesures qui rentrent dans le cadre de l'état d'urgence s'applique pour ces zones-là automatiquement. Donc, il peut y avoir des restrictions de communication, des restrictions de circulation sur ces zones pour permettre l'intervention des autorités et rétablir la sécurité.
Réduire les libertés d'habitants de quartiers pauvres qui subissent déjà les violences des gangs, le secrétaire d'État assure que c'est nécessaire.
En même temps, l'État entend le cri de cette population qui veut plus de sécurité. Donc, l'état d'urgence, c'est justement pour restaurer l'autorité de l'État, garantir la sécurité du territoire et permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs activités.
Décrété pour 1 mois, cet état d'urgence ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et bonjour à vous, Marie Normand.
Bonjour.
Dans le sillage de cette actualité, la presse haïtienne qui demande des comptes.
Oui, c'est la une du Nouvelliste aujourd'hui pour qui il est temps de rectifier le tir. Le journal affiche les visages du président haïtien, du premier ministre et du patron de la PNH, la police nationale haïtienne, coupable selon lui d'une communication piteuse après la mort de ses 4 policiers la semaine dernière qui a bouleversé la population. Le premier ministre a par exemple comparer les événements à un match de football. La PNH a pris des buts, elle en a donné, le match n'est pas perdu. Une métaphore choquante, juge le Nouvelliste. Le journal dénonce aussi le manque de compassion affiché du chef de la police et fait le bilan des 4 mois de Léon Charles à la tête de l'institution. Le quotidien regrette notamment que près d'un mois plus tard, la liste des quelques 400 détenus évadés d'une prison de Port-au-Prince ne soit toujours pas rendue publique. Information qui pourrait être cruciale, notamment pour les policiers qui les avaient arrêtés.
RFI. The World's Voices. 9h et un peu plus de 13 minutes à Washington. On ouvre le dossier de l'immigration aux États-Unis. Avec d'abord cette information, Marie. La Chambre des représentants a approuvé hier soir 2 textes. Un visant à faciliter l'obtention d'un titre de séjour pour les employés agricoles étrangers. L'autre ouvre la voie à la naturalisation de quelques 700 000 Dreamers, ces jeunes qui sont arrivés dans le pays alors qu'ils étaient encore mineurs.
Oui, 2 projets de loi donc. Mais cette Chambre, rappelons-le, est contrôlée par les démocrates. L'avenir de ces textes est très incertain au Sénat. Au moins 10 sénateurs républicains sont nécessaires pour faire passer ces projets de loi, explique le Washington Post. Et les alliés républicains potentiels disparaissent à mesure que la crise s'aggrave. Note Politico, même ceux qui, à l'origine, soutenaient ce texte pour les Dreamers, notamment en cause. Les arrivées de migrants clandestins en forte augmentation, notamment de mineurs non accompagnés. Ils sont plus de 14 000 sous la garde des autorités américaines, rappelle le média mexicain Cronica en une. La sécurité des sites d'hébergement d'urgence dans lesquels ils sont envoyés est d'ailleurs remise en question, souligne aujourd'hui le San Diego Union Tribune.
Une situation difficile, de l'aveu même du secrétaire à la sécurité intérieure en début de semaine. Merci Marie-Normand, on va vous retrouver dans quelques minutes. Le nombre de migrants arrivés à la frontière sud des États-Unis est tout simplement sur le point d'atteindre un sommet que le pays n'avait pas connu en 20 ans. Les structures d'accueil sont débordées. C'est un dossier que vous suivez, Andréane Bissonnette, bonjour.
Bonjour.
En ligne avec nous du Québec, vous êtes chercheuse à la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM de Montréal. Après les années Trump et la tolérance zéro, Biden, Joe Biden avait promis d'effacer une honte morale et nationale. Ça passe donc par sa grande réforme de l'immigration. Le président a promis, on le rappelle, d'offrir une voie vers la régularisation à 11 millions de personnes. Avec ces deux textes votés hier à la Chambre, cela veut-il dire qu'il compte mener finalement une politique de petits pas, d'avancer dossier par dossier?
Oui, donc en fait, on se rappelle, il y a quelques semaines, le président avait envoyé à la Chambre et au Sénat le U.S. Citizenship Act de 2021, qui incluait notamment une voie vers la légalisation, comme vous l'avez souligné, ainsi que une augmentation de la sécurité au point d'entrée, une augmentation des ressources également pour le système migratoire et des investissements en Amérique centrale. Initialement, du côté démocrate, on voulait traiter le projet de loi dans son entièreté, mais on a rapidement décidé de plutôt y aller avec une stratégie, comme vous le dites, là, de petits pas, c'est-à-dire de déconstruire ce gros projet de loi-là. Et y aller plutôt avec certains plus petits projets de loi qui ont davantage d'appui de façon générale au niveau politique, mais également dans la société, parce que il faut souligner là que le projet de loi adopté hier qui offre une voie vers la citoyenneté pour les Dreamers est actuellement soutenu par près de 80% de l'électorat aux États-Unis.
De la prudence, peut-être alors, parce qu'il y a cette situation que l'on évoquait aussi aux frontières sud du pays, Andréane Bissonnette, comment expliquer un tel afflux de migrants et surtout de mineurs non accompagnés?
Il y a deux éléments à souligner ici. Le premier étant que l'administration Biden a dernièrement modifié un ordre que le président Trump avait mis en place en réponse à la COVID-19 et qui interdisait l'entrée sur le territoire à tout demandeur d'asile, indépendamment de l'âge ou de la situation. L'administration Biden a plutôt dit « Nous allons poursuivre cette méthode avec les adultes et avec les familles, mais pour ce qui est des mineurs non accompagnés, nous allons recommencer l'acceptation des dossiers et donc les garder en territoire états-unien plutôt que de les retourner du côté mexicain de la frontière. Donc, bien sûr, ça a entraîné une augmentation du nombre d'enfants qui se trouvent du côté américain de la frontière dans les ressources qui sont d'autant plus limitées parce que avec la COVID-19, on a une limitation des places pour assurer les mesures de distanciation physique entre les enfants. De l'autre côté, il y a tout l'aspect de l'arrivée de M. Biden et de ce discours beaucoup plus humain et beaucoup plus ouvert envers l'immigration qui a été repris par notamment des passeurs et dans des médias en Amérique centrale. Et il y a vraiment une désinformation sur les mesures et on a une impression dans les pays d'origine qu'en fait la frontière serait ouverte, ce qui est loin d'être le cas dans la réalité.
Joe Biden aurait donc, semble-t-il, créé lui-même un appel d'air. En tout cas, c'est la façon dont ses opposants républicains présentent la chose. Cette semaine, il a appelé les migrants à rester chez eux. Comment qualifier ça? C'est un vœu pieux?
Ben, en fait, c'est une position qu'il avait déjà évoquée il y a quelques semaines également, parce que on avait à ce moment-là annoncé la volonté de l'administration Biden de remettre en place un programme qui existait avant l'administration Trump et qui permettait aux enfants dont les parents se trouvent déjà aux États-Unis d'appliquer pour une réunification familiale dès leur pays d'origine pour éviter qu'ils n'aient à se rendre à la frontière mexicaine-états-unienne et faire face à toutes les difficultés de la migration. Mais c'est sûr que, bon, d'une part, il y a, oui, le discours d'ouverture de M. Biden, mais il y a une reprise de ce discours-là et d'une désinformation par rapport aux propos de M. Biden. Donc, il y a certes une augmentation de l'humanité du processus, mais il n'y a pas un appel là à une augmentation de la migration. Donc, on a réitéré cet élément-là de la part de l'administration cette semaine.
L'humanité ou peut-être l'inverse, le manque d'humanité, ça, c'est une critique, si je puis dire, de la part de l'aile progressiste du Parti démocrate qui reproche à Joe Biden d'être revenu sur ses promesses avec maintenant, on le voit à la frontière, des centres de rétention qui sont pleins à craquer où on dénonce des situations et des conditions inhumaines.
Oui, absolument. Donc, on travaille avec auprès de l'administration Biden avec des difficultés qui découlent de l'administration Trump, parce qu'il faut dire que les enfants, habituellement, ne sont pas détenus plus de 72 heures avant d'être soit placés dans des centres spécifiques pour les enfants ou d'être réunifiés avec des membres de leur famille à l'intérieur du territoire. Par contre, ce qui arrive, c'est que durant l'administration Trump, on a créé un climat de peur chez ces membres de la famille, de famille, en fait, à l'intérieur du territoire, notamment en demandant des vérifications du statut migratoire avant de relâcher les enfants sous leur responsabilité. Et donc, on doit reconstruire là cette confiance-là entre la population non documentée et les institutions gouvernementales. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'aile plus progressiste, on craint donc que ce renouveau d'utilisation des tentes à la frontière nous rappelle là, les images difficiles qu'on a eu sous Trump de séparation des familles et d'enfants en cage.
Et tout cela peut-il donc remettre en question et compliquer la tâche de Joe Biden dans la perspective de cette grande réforme promise de l'immigration?
Oui, parce que ce qu'on voit là, c'est que malgré un appui là, comme je le mentionnais, de 80% des électeurs envers certaines portions de ce projet de loi là, il y a vraiment une volonté du Parti républicain de s'unifier autour de cet enjeu. Donc on le sait, il y a certaines divisions au sein du Parti républicain qui persistent au-delà de la présidence Trump, mais l'enjeu de la frontière est vraiment un enjeu sur lequel on peut s'unifier au niveau du Parti républicain. Et donc même si on a une approbation de ces mesures-là auprès de l'électorat, c'est possible que ce soit un point-là sur lequel les républicains vont s'unifier.
Et discrètement, Joe Biden lui a quand même demandé au Mexique de faire en sorte de retenir autant que possible les demandeurs d'asile, ces migrants. De quel levier dispose concrètement le président américain face au Mexique pour faire pression?
En fait, c'est une relation qui remonte dans le temps. Donc, l'externalisation des contrôles frontaliers des États-Unis vers le Mexique, ça ne date pas d'hier. Il y a eu plusieurs initiatives, tant républicaines que démocrates, à travers les années. Donc, c'est une relation qui est basée notamment sur des subventions états-uniennes pour le développement des mesures de contrôle migratoire au Mexique, une collaboration sur ces enjeux-là qui remonte au début du 21e siècle. Et donc, on voit que le président Biden en a appelé donc de cette collaboration-là avec le président mexicain. Et bien sûr, de l'autre côté, il y a l'aspect des vaccins aussi. Donc, l'une et l'autre des nouvelles sont tombées avec peu d'écart entre les deux.
Transition toute trouvée. Je vous remercie beaucoup. Andréane Bissonnette, chercheuse à l'Université du Québec à Montréal, d'où vous étiez en ligne avec nous. Merci pour votre éclairage, Marie Normand. Je le disais, donc, transition directement. Cette question des pressions au moment, justement, donc, où le président américain prévoit d'envoyer des millions de doses de vaccins à ses deux voisins. Certains parleraient presque de monnaie d'échange.
Oui, 1,5 million de doses au Canada et 2,5 millions au Mexique, selon le New York Times. Voilà ce qu'en disait hier la porte-parole de la Maison-Blanche. Voilà, on y réfléchit, dit-elle, il s'agira d'un prêt. Le New York Times rappelle que des dizaines de millions de doses du vaccin AstraZeneca sont stockées en ce moment dans des sites de fabrication américains. Leur utilisation a déjà été approuvée par le Mexique et le Canada, mais pas encore aux États-Unis. Alors, s'agit-il d'une monnaie d'échange contre la sécurisation des frontières, un troc en quelque sorte entre AMLO et Biden, comme le sous-entend le titre aujourd'hui du journal mexicain El Universal ou encore la une de Milenio? La Maison Blanche botte en touche, Michael. Elle répond que les discussions sur les vaccins et la sécurité frontalière sont sans rapport, mais se chevauchent, comprenne qui pourra.
La presse américaine, comme le New York Times ou le Washington Post, qui revient aussi largement aujourd'hui encore en une sur le choc de la communauté asiatique après les fusillades de Géorgie mardi contre des salons de massage. Affaire prise très au sérieux. Joe Biden et Kamala Harris se rendent aujourd'hui à Atlanta. Ils vont s'entretenir avec des responsables de la communauté asiatique au sujet donc des menaces dont ses membres sont victimes, comme par exemple cet habitant de la côte ouest qui s'est confié à Eric DeSalve.
Danny Huchang est encore sous le choc, le visage tuméfié, impossible d'ouvrir son œil droit. Lundi, cet Américain d'origine chinoise a été violemment agressé en pleine rue dans le centre de San Francisco. Aujourd'hui, Danny Huchang est convaincu d'avoir été ciblé parce qu'il est asiatique.
C'est clair, c'est une attaque motivée par la haine. On ne m'a rien volé. Quand je me suis réveillé, j'avais encore tout sur moi.
Aux États-Unis, les agressions contre les Asiatiques sont en forte hausse. L'organisation Stop Asian American Hate en recense plus de 3000 depuis le début de la pandémie. En cause, selon Danny Huchang, la rhétorique de l'ancien président Donald Trump.
Tout ça, c'est à cause de Trump. C'est lui qui a commencé avec son histoire de virus chinois. Il n'a pas arrêté de répéter dans les médias que le Covid a commencé en Chine. Ça a fini par rentrer dans les cerveaux. Et c'est comme ça qu'ici, les gens ont commencé à détester les Asiatiques.
Danny Huchang avait émigré aux États-Unis en 1999 pour trouver du travail. Depuis son agression, il envisage de quitter la Californie. Éric De Salve, San Francisco. RFI.
Enfin, à la veille de la journée de la francophonie, demain, ça chauffe au Canada après une communication controversée d'une société de consultation en immigration, MDC Canada, Marie.
Mais oui, sur sa page Facebook, deux colonnes, les pour et les contre la vie au Canada, et dans la liste des points négatifs, le fait que beaucoup de gens parlent français. Publication depuis retirée, excuses présentées qui n'ont pas calmé la fureur des francophones. Écrit le Journal de Québec, l'affaire est remontée jusqu'à l'Assemblée nationale. Les députés ont fait voter une motion à l'unanimité, Michael, selon laquelle la langue française est une force d'attraction indéniable pour le Québec et le Canada.
Indéniablement, bien sûr. Merci beaucoup, Marie Normand, La Presse avec vous.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec Tessa Groman. Bonjour, rebonjour Tessa.
Rebonjour Michael, rebonjour à tous et à toutes.
On commence donc par cette affaire, cette vidéo en Guyane avec des enfants où l'on voit donc des enfants chanter des chants militaires néo-nazis.
Oui, tout à fait. Ils chantent sans comprendre, les bras levés. Cette vidéo révélée par le site d'information Mediapart a été tournée en Guyane par un légionnaire. Elle fait partie d'une enquête sur les néo-nazis dans l'armée française. Le document a fait vivement réagir le député guyanais Gabriel Serville qui demande à la ministre des Armées, Florence Parly, de sévir.
C'est peut-être pas nouveau. Quand on ne sait pas, on ne réagit pas. Mais quand on apprend l'information, je considère qu'il faut réagir et il faut que la sanction soit véritablement exemplaire. Parce que lorsque on fait partie de l'armée française, je considère qu'on doit pouvoir respecter une certaine éthique. Il y a des valeurs que l'on doit apporter auprès notamment d'enfants. Lorsque on essaye de mettre des enfants dans ce jeu-là, des enfants mineurs de surcroît, je considère que c'est gravissime et que ça mérite sanction. De sorte que cette sanction-là serve aussi d'exemple aux autres qui voudraient en faire pareil.
Propos recueillis par Patrick Clark, Guyane la première. Alors que dans certaines régions de l'Hexagone, des magasins vont devoir fermer pendant un mois en Martinique, les lieux publics type restaurants ou salles de sport restent ouverts. Mais les contrôles sont aussi plus stricts depuis mardi. Hier soir, des gendarmes ont visité plusieurs établissements sur la commune de Schœlcher. Le lieutenant-colonel Pierre-Yves Fouquet explique à Stéphane Petitfrère où et dans quel esprit ils interviennent.
Partout sur l'ensemble de l'île, bien évidemment, sur les plages, sur les établissements recevant du public, dans les centres commerciaux et dans les centres-bourgs. Sur mer également, puisque la brigade nautique, les gendarmes de la brigade nautique font partie intégrante, ce sont des gendarmes sur l'eau. Donc dans ce cadre aussi, on peut constater des rassemblements à caractère festif. Donc tous les endroits potentiels feront l'objet d'un contrôle de la part des gendarmes. Donc c'est une démarche vraiment pédagogique et préventive qui vise à s'assurer que l'ensemble des règles sanitaires sont respectées.
En Guadeloupe, une opération escargot organisée hier par des agents territoriaux a bloqué en partie l'activité de l'île. Mairie bloquée, services administratifs inaccessibles, absence de restauration scolaire à l'origine du conflit, des questions de statut et de salaire. Et puis, un an après le début de la crise sanitaire, comment les marins-pêcheurs des Antilles s'en sortent-ils? Manuel Larade de Martinique, la première, leur a rendu visite.
Les marins-pêcheurs ont dû s'adapter comme tout le monde à cette crise inédite de la Covid-19. Michel Moreau, premier vice-président du collectif Pêche Martinique, est élu au comité des pêches.
Le pêcheur martiniquais, il s'est mis à suivre les gestes barrières. Hein. On n'avait pas le choix, donc la maladie est là, il faut faire avec, il faut se protéger et puis bon, faire son métier, voilà.
Aujourd'hui, ces hommes de la mer assistent impuissants à une baisse du poisson. Une grande réflexion doit être menée sur ce secteur d'activité. La sécurité en mer des marins pêcheurs doit être notamment au centre des débats, selon Michel Moreau.
On a perdu un très cher collègue, c'est un super porte-à-moine. Toute une tristesse dans la profession. Il faut améliorer la sécurité, même si bon, on est un peu réticent dessus, mais la vie d'un humain n'a pas de prix.
Voilà un reportage de Manuel Lara de Martinique, la première.
Merci Tessa, merci à tous et à lundi.
Ici l'Europe, Dominique Bayard.
Nous recevons